Michel Lachaume, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Michel, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi ta présentation sommaire rapidement?
Ah, mon doux. Je suis en ce moment ambassadeur pour une petite firme qui s'appelle Olymiga, signée Caméline, qui est une extraordinaire plante à peu près sauvage. Je travaille aussi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour Hector Larrivée, où j'étais en charge du projet Artisan des saveurs, qui est un programme vraiment pas unique au Québec, unique au monde, où, parce qu'Hector Larrivée, c'est la grande distribution en restauration, hôtel, institution. L'idée était de déconstruire le modèle de façon locale, de déconstruire le modèle de la grande distribution et d'aller vers des petites productions d'exception avec des petits producteurs familiaux. OK? Pour briser l'espèce de lien où on est toujours victime de ce qui arrive de Californie, ce qui arrive d'ailleurs, ou des très, très grands producteurs industriels du Québec. L'idée des artisans des saveurs, c'était l'anti-industrialisation de l'agriculture. Voilà. Le plus gros de nos fournisseurs était, en fait, ce serait carrément une crotte de nez sur l'échiquier des légumes du Québec. Une trentaine d'acres en légumes, en production maraîchère, mais là-dessus, écoutez, c'est bien au-dessus de 100 variétés, là. Genre 50 variétés de poivrons, des variétés de melons, des variétés de tomatillos, puis plein d'autres légumes aussi, incluant des herbes. Aucune production de masse. Alors, chez Hector, ce qu'on faisait, c'est parce que moi, je suis aussi comme un expert en champ, en variété. J'ai fait des milliers de variétés de légumes. J'avais accès aux banques génétiques. J'en ai créé certains. J'ai surtout sélectionné. Et puis, j'avais à un moment donné un jardin de recherche chez Hector où les chefs venaient. Alors, ils venaient et ils pouvaient ramasser gratuit. Il y en a qui arrivaient avec un camion puis ils repartaient avec le camion plein. Mais c'était un jardin, c'est quand même extraordinairement productif. Et il y avait toujours au moins 500 variétés par année là, dans le jardin, okay, de variétés maraîchères. Alors, on testait de même pour la saveur, vraiment. Évidemment, ça, c'est les chefs. Moi, je regarde aussi pour la résistance aux maladies puis ce genre de choses-là, parce que ça va de pair. Mais l'idée étant que la saveur était le premier guide, la résistance aux maladies le second. Et ça a évolué. À un moment donné, le jardin, c'était très onéreux pour Hector. Alors là, j'ai recommencé à travailler directement avec les petits producteurs pour faire mettre en champ des variétés que je sélectionnais. Et ces variétés-là, ben, on les promenait dans un camion qui était une espèce d'épicerie ambulante, si on veut, là, qu'on appelait le camion des artisans des saveurs. Et là, on les présentait aux chefs. Puis on ne faisait pas juste vendre, là. En fait, au début, l'idée, c'était même pas de vendre, c'était juste de montrer. Mais là, les chefs, quand ils embarquaient dans les camions, ils en voulaient tout de suite. Fait qu'on a commencé à revirer le projet de bord pour être capable d'en stocker partout. Il n'y avait plus de place là, nulle part dans le camion, on stockait. Et puis, mais on donnait. Les gens pouvaient partir avec un exemplaire de tel poivron, tu sais, des exemplaires de poivrons, de piments, de peu importe, en fait, ce qu'on avait avant. Et on mettait en valeur des petites productions familiales. Ça, j'insiste là-dessus. L'idée étant de valoriser les productions familiales du Québec. Et on collaborait aussi souvent avec beaucoup de restaurants, comme dans la région de Québec, où on est très, très fort sur le vraiment local, ou ailleurs. Je collaborais avec des petits producteurs que les chefs aimaient eux-mêmes, tu sais, qui me recommandaient, puis hey, tu devrais parler à un tel. Et là, ce qu'on faisait, il y avait une complicité, le soleil brille pour tout le monde, pas juste pour les producteurs, puis le camion d'Hector Larrivée. Ben, on mettait ça en équipe, là, regarde, voici ce qu'il va y avoir chez Hector. Puis ça va être produit en bonne quantité par des producteurs artisans, mais en bonne quantité. Fais donc pas ça, là, regarde. Il y en a tellement d'autres choses. Parce que Hector, il y avait malgré tout une quantité limitée. Là, tu ne peux pas stocker 40 000 sortes de légumes différents. Là, et les chefs ont tellement de petits besoins particuliers. Alors, on avait notre famille de légumes. Puis on ne gênait pas de la présenter aux jardiniers, puis regarde, fais d'autres choses. Et souvent, c'était des jeunes producteurs, je leur donnais des conseils sur qu'est-ce qui pouvait être rémunérateur, disons, qu'est-ce qui pourrait plaire au chef. C'était vraiment un travail en symbiose avec les jardiniers locaux du chef, qui souvent devenaient nos jardiniers à nous, les restaurateurs, puis Hector. C'était vraiment l'anti-distribution à peu de choses près, là, tu sais.
Ben,
ça a été ça pas mal ce que j'ai fait là, ici au Québec. Plus jeune, plutôt, je me suis promené avec le grand hybrideur Tom Wagner. J'ai fait une série de tournées de conférences sur l'hybridation des tomates et bon, des pommes de terre à travers la France, la Suède et la Belgique. Je suis retourné 10 ans plus tard encore, mais là, parler des artisans des saveurs, de l'antidistribution dans une conférence dans le sud de la France. Et voilà, c'est un petit peu en gros mon parcours. Si tu as des questions.
Oui, sur ton parcours, quand tu étais sélectionneur, tu le faisais de manière bénévole. C'était pas ton gagne-pain principal.
Non, absolument pas.
Puis là-dessus, comment ça l'a influencé ta pratique? Comment tu penses que si tu devais payer les factures avec ton métier de semencier, comment tu penses que ça aurait changé ta démarche?
Bien, en fait, je ne voulais pas faire ça. Je suis ami avec tous les semenciers. Je ne voulais pas aller là-dedans. Premièrement, j'avais des revenus qui m'étaient suffisants. Je me permettais de bloquer l'été. Ça me coûtait cher. Mais j'avais un très, très bon revenu. Vraiment un très bon revenu. Je perdais beaucoup d'argent l'été, mais écoute, c'était une passion, c'est dévorant. Puis, ma ferme était de grandeur commerciale. Là. Mon opération était de grandeur commerciale. Là. Il y a pas, écoute, je suis allé jusqu'à 5 acres déjà, pendant que je vivais en Ontario. Mais en moyenne, c'était plus autour de 2 ou 3 acres. Là, tu sais. Et ben, c'est assez rigolo. Je travaillais dans les produits financiers. Je n'avais pas le droit d'avoir de revenus autres que des milieux financiers. Alors, comme j'avais le droit d'investir dans une ferme, mais je n'avais pas le droit de travailler dans une ferme et de travailler dans les produits financiers. C'était illégal. On va s'entendre que les produits financiers, c'est un peu plus rémunérateur que qu'être semencier ou l'agriculture. Donc, j'ai commencé à travailler comme ça, à sélectionner. Mais je me suis lié d'amitié avec des semenciers, puis je leur refilais les trucs. Quant à moi, c'était juste une passion dévorante. Tu sais, comme tous les passionnés, j'étais un peu obsessif, compulsif. Puis là, je n'étais pas capable de m'en empêcher. C'était une drogue, tout simplement. Mais je produisais effectivement de la semence, mais je n'en faisais pas le commerce parce que je n'avais pas le droit. J'avais le droit selon les lois canadiennes, mais j'aurais été fou de laisser tomber l'autre emploi, là. C'est lui qui me finançait, dans le fond. Mais je ne pense pas que j'aurais été prêt à l'époque à me lancer dans la semence commerciale moi-même.
Mais je pense que là où je voulais t'amener, c'était autour de cette communauté de pratique qu'on appelle les free breeders ou les hybrideurs libres ou peu importe le nom qu'on peut leur donner, qui eux sont... Tu parlais d'une anti-industrialisation de la distribution, bien aussi une anti-industrialisation de la production de semences, puis de sortir de la propriété intellectuelle et la difficulté avec des valeurs aussi, aussi saines que de rentabiliser l'affaire versus avoir une propriété intellectuelle, toucher des royautés, etc.
Oui, bien c'est ça. C'est que l'idée derrière ce qu'on appelle les « free breeders », c'était que la semence n'appartient pas à un individu, mais elle appartient à l'humanité. Il y a tout un mouvement, le mouvement OSSI aux États-Unis, là, Open Pollinated Seed, j'oublie l'acronyme, là, mais c'est, il y a des gens qui produisent commercialement de la semence. Il y a un très, très grand hybrideur qui s'appelle Frank Morton. Open Seed, l'initiative des Open Seed Initiative, OK. Et c'est des gens qui créent des légumes, mais pour en faire des variétés à pollinisation libre. Il y a des gens comme Frank Morton de Wild Garden Seed qui en fait un métier. Et en fait, il y a plusieurs entreprises maintenant là, qui sont sur cette philosophie-là. Le premier qui a lancé ça un peu, c'est le Dr. Alan Kapler, celui qui a créé Peach Seed, qui est maintenant en Oregon, qui a créé Seeds of Change, pardon. Et puis là, maintenant, il y a Peace Seeds en Oregon. C'est sa fille qui prend le relais. Mais eux, tout un mouvement, là, puis ça, c'est un petit peu Tom Wagner. Là. J'ai fait un voyage en 2009 avec Tom Wagner. J'avais convaincu Tom. Tom créait des hybrides, mais des hybrides qu'il déshybridait. C'est comme, il faisait des nouvelles variétés, mais à pollinisation libre. Et il était très déçu de ne pas pouvoir en vivre vraiment. Mais ce n'était pas un gars qui était capable de s'organiser. Moi, un homme d'affaires, il n'était pas capable de s'organiser en compagnie. T'sais, avoir une business qui roule, c'est un artiste, t'sais. Et là, ben, je l'ai convaincu, écoute, vends ton talent à la place. Et avec Coco Pelli, il s'est organisé, j'ai coordonné une conférence, c'est une tournée de conférences à travers bon, la France, la Suisse, la Belgique. Puis finalement, Tom a amené là-bas beaucoup de semences en création. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un hybride, n'importe quelle nouvelle variété de légumes sur Terre commence toujours par être un hybride. Les premiers hybrideurs, c'était les abeilles. Ils pollinisaient deux tomates différentes ou deux trucs différents, et ça créait un hybride. Maintenant, en deuxième génération, un hybride est toujours stable. Quand tu prends deux variétés A et B, tu les mélanges, le C est toujours le même. Cependant, quand tu prends le C puis tu le pollinises avec lui-même, là, ça explose dans toutes les directions. Là, c'est toutes les différences génétiques du père et de la mère qui s'expriment en F2. Bien, Tom a amené des F2 puis des F3 puis quelques F4. Ah, ça, c'est les générations, les filiations, là, tu sais. Il faut se rendre à F8 pour avoir une variété stable, la plupart du temps. Et il a promené ça à travers toute l'Europe pendant notre série de tournées, puis ça a créé une sorte d'engouement, mais absolument fou. La tomate étant ce qu'elle est, c'est-à-dire le légume le plus populaire en jardinage, il suffit de regarder les catalogues des compagnies de semences, là, à peu près la moitié du stock, c'est des tomates, puis, pour beaucoup de compagnies. Et là, ça a lancé comme une sorte de mouvement de co-hybridation. Où quelqu'un part un F1, un F2, puis après ça, puis F3, puis toi, ben, il va en envoyer en Europe, va en envoyer aux États-Unis, au Canada, puis là, tout le monde, à partir de ça, va continuer le procédé. Et ça va donner des choses différentes en fonction de ce qu'on sélectionne, parce que c'est comme un entonnoir, ça, la génétique. C'est, au début, en F2, comme je t'ai dit, c'est très, très large. L'entonnoir est large. Et là, tu vas aller sélectionner, chercher les critères que tu veux. Et chaque année, l'entonnoir va rétrécir. Jusqu'à temps que tu obtiennes ce que tu veux, là, t'sais, dans le bas, là. Mais le petit monsieur en Hollande, c'est pas la petite madame aux États-Unis. Ou... Tout le monde va travailler. Un croisement peut donner 10, 12, 15 variétés différentes. Alors, il y a ce mouvement-là. Et il y a eu d'autres initiatives, comme celle de Greg Laulier sur les Dwarf Plant Initiative pour créer des variétés qui sont pour le jardinage urbain. Il y a un immense mouvement bénévole à travers le monde, mais c'est fait par des passionnés. C'est fait par des amoureux de la saveur, par des amoureux du jardinage. Beaucoup sont aussi des professionnels, là, des petits producteurs bio, des gens comme ça. Et là, il y a une explosion des variétés de tomates, là, comme on n'a jamais vu. Et elles sont toutes, la plupart d'elles, délicieuses, là. T'sais, c'est vraiment sélectionné sur le goût. C'est un travail qui est fait avec amour par plein, plein de gens à travers la planète en collaboration. Il n'y a plus de. Là, j'ai sélectionné d'un ami qui, malheureusement, est décédé cette année. Il m'avait envoyé un F4 d'un croisement qu'il avait fait entre un piment très piquant mais très fruité, puis un poivron très sucré, puis très fruité aussi. Il voulait recréer deux variétés. Randy Sainz, malheureusement, il est décédé l'hiver dernier. Mais. Il n'avait jamais pu trouver, parce que la capsaïcine, c'est un trait dominant. Okay? Le poivron, c'est un trait récessif. C'est sucré, là, pas de capsaïcine, ça, c'est un trait récessif. Sauf qu'en 4 ans, il ne l'avait jamais trouvé, le trait récessif. Il n'avait jamais mis la bouche dessus. Alors, moi, dans mon jardin de recherche, j'ai fait quatre grands rangs de 300 pieds de long, mais j'ai trouvé un plant. J'en ai trouvé un. Et alors là, je l'ai fait multiplier dans les Caraïbes. Et dans les Caraïbes, bien, c'est devenu le poivron vedette du plus gros producteur bio qui vend même dans les carrefours, qui sont des espèces de Walmart, si on peut dire, là, des Français. Ça se vend en Guadeloupe, il se vend en Martinique. Et c'est un poivron vedette là-bas. Là. Je viens de recevoir de la semence, là. Vois-tu, mais ça, c'est un travail collaboratif de cette nature-là. Voilà.
Ouais. Mais c'est fascinant, mais j'aimerais qu'on transite vers le sujet un peu du podcast qui est autour des PFNL. Mais restons sur la sélection. Ce mouvement-là de jardinier bénévole me semble qu'il se fait plutôt avec les légumes. Puis ça, peut-être pour des raisons que ce sont des annuels. Donc, beaucoup plus facile d'avoir une rapidité de génération et de révolution. Comment tu penses qu'on pourrait initier un même mouvement avec les végétaux qui sont considérés comme des PFNL, qui sont souvent des vivaces? On peut penser aux arbustes à noix, par exemple.
Oui, ben écoute, dans le cas des arbustes à noix, tout ça, écoute, il y a déjà beaucoup. C'est un travail très long et très fastidieux. Tout ce qui prend du temps à pousser. Mais écoute, regarde, il ne faut pas. Il ne faut pas s'imaginer que ça ne se fait pas dans tout ce qui est dans les gardes, tous les fruits, c'est tout des vivaces. Je m'excuse, mais il y a énormément de travail de croisement qui est fait là-dedans. Les noix, c'est la même chose. En fait, c'est des fruits, des noix, mais je m'attends à ce que la prochaine vague, là, je le sens vraiment monter. Là. Bon, d'un côté, il y a le légume différent qui devient populaire dans la population, pas juste chez les chefs, là, tu sais, les variétés, bon. Il y a une biodiversité qui est en train de s'installer dans le goût, dans le désir gustatif des gens. Mais il y a aussi, dans le mouvement des jardiniers amateurs, toute la notion des produits, mais vraiment les produits non ligneux, on va s'entendre, parce qu'il n'y a pas juste, tu sais, des pommiers et des noyers, là, il y a bien du monde qui en a. Là. C'est dans le jardin en arrière, là, ça, c'est pas... Puis des croisements dans les noix, il y en a pas juste à peu près, là, OK. Mais par contre, je vais prendre une plante, là, comme la... Il y en a une que je m'attends à voir se développer beaucoup, c'est le cerfeuil musqué, par exemple, qui est une plante absolument extraordinaire, qui est une vivace, qui aime bien pousser à l'ombre. Tout le monde a un arbre ou une haie quelque part autour du terrain, qui est une fine herbe d'une extraordinaire délicatesse. Ça commence à se parler beaucoup, ça commence à se distribuer. La cryptoténie du Canada, qui est vraiment là, une plante sauvage, mais vraiment sauvage, là, on la voit à part des grands lacs, elle longe les deux rives du fleuve, là, à peu près jusqu'à Québec. Là. Okay? La cryptoténie, là, c'est, les gens connaissent le Mitsuba, qui est le persil sauvage japonais. Ça, c'est Cryptotenia japonica, la cryptoténie du Japon. Bien, on a la cryptoténie du Canada, qui est à peu près pareil. Mais les gens ne la connaissent pas. Il faut que tu achètes des graines aux États-Unis si tu en veux. Tu sais. Mais il y a vraiment un mouvement des jardiniers vers ces produits sauvages-là là, qui est en train de se dessiner. Quand ça commence chez les jardiniers, je suis dans la population, j'imagine après. L'aménagement comestible, qui est un truc de vivace en très grande partie, là, ça en vient de plus en plus populaire. Quelqu'un comme Plante Select, par exemple, qui fournit tous les grands centres jardins, a maintenant, il ne vend pas direct malheureusement, là, mais tu peux commander si tu vas dans un centre jardin de qualité du Québec. Il y a beaucoup, beaucoup d'allium qui sont des plantes sauvages. Ils ont beaucoup maintenant de plantes sauvages qui s'en viennent en disponibilité. Et des fois, tu peux les commander. Il y a la pépinière L'Aiglon au Québec. Ça s'en vient. Moi, je vois ça. Je me dis que dans 10 ans, le portrait là, du jardin à la maison, puis même du jeune producteur, va changer. Il y a des gens, des jeunes producteurs que j'ai intéressés à produire de la livèche. Convainc ici, à un moment donné, on me demande, je reçois un téléphone, « Hey, où c'est qu'on trouve ça, qu'on ramasse ça? Du persil sauvage. » Pas du persil, excuse-moi, du céleri sauvage. Est-ce que c'est ça? On n'a pas de céleri sauvage au Canada. Mais finalement, c'était le nom de la livèche. Tu sais. Ben, elle vient d'Europe, mais c'est une vivace puis qui s'est échappée. Et il y en a qui poussent en certains endroits. Même chose avec le cumin, puis il y a d'autres trucs comme ça. Mais il y a un mouvement vers vraiment des jeunes là, en ce moment vers la production de vivaces. Puis je pense que ça, il y a un avenir extrêmement intéressant. Moi, je peux te dire que du point de vue de l'agriculteur, c'est extraordinairement intéressant. Les vivaces, ça ne demande rien, ça revient, c'est tough. La plupart du temps, c'est ça qui résiste aux mauvaises herbes. Il faut désherber un peu, mais je veux dire, c'est du topinambour, là. Si tu mets ça dans le jardin, là, j'ai de la peine pour toutes les autres. Je n'ai pas de la peine pour le topinambour. Le petit... Il n'y a pas de mauvaises herbes qui vont le déranger. Je pense que le paysage est vraiment en train de changer à Stéphane. Les gardes d'éveil qu'il y a sur les champignons forestiers, tu sais, et les gens qui veulent en cultiver à la maison aussi. Je trouve intéressant le fait que de plus en plus, ces choses inconnues-là, qui sont les champignons, qui sont les légumes différents, des fines herbes différentes, les gens veulent les faire à la maison parce que ça, ça précède un usage beaucoup plus grand dans la population. Je pense, très sincèrement. Je suis habitué de voir des vagues de telle chose, chose devient populaire. Elle devient populaire dans un milieu plus spécialisé. Elle se démocratise chez les amateurs qui sont plus spécialisés que la population. Après ça, ça passe souvent par les chefs puis ça rentre dans la population. Ben, on est rendu là avec les produits forestiers non ligneux. On est vraiment, vraiment, vraiment rendu là. Les gens ne savent pas, mais on a un équivalent de poivre de Sichuan sauvage ici au Québec. Mais bon, c'est pas exactement le même, mais c'est la même famille. Mais...
Le clavalier d'Amérique.
Hein?
Le clavalier d'Amérique.
Oui, le clavalier d'Amérique. Je vais m'essayer d'en faire pousser. Là. Je me suis commandé, j'ai réussi à me trouver de la semence. Il y a des choses extraordinaires en forêt. Là. Puis on a tous les usages que les Amérindiens nous ont appris, mais il y a aussi beaucoup de plantes. Un gars comme Fabien Girard découvre aussi des usages à des plantes que même les Amérindiens n'ont pas utilisées. Tu sais. Et on a un méchant garde-manger en haut. Là. C'est vraiment extraordinaire.
D'après toi, c'est quoi le facteur limitant qui fait qu'on n'en trouve pas dans les étalages d'épicerie ou même
l'engouement? C'est la certitude de l'approvisionnement. La certitude de l'approvisionnement. Ça, c'est... par exemple, là, de la livèche, je m'en faisais demander, mais régulièrement par les chefs, il n'y a personne qui produit de la livèche. Tu sais, en quantité, là, entendons-nous. Là. Mais si j'avais de la livèche fraîche, là, je n'aurais eu dans mon camion, là, puis ça se vendait tout le temps. Tu sais, il faut arriver à une certaine... Je parle du point de vue de la distribution. Alors, remarque, c'est tout ça qui est la beauté du petit local aussi, tu sais. Mais si tu as de la livèche, souvent, tu nous vas en avoir assez juste pour fournir peut-être un restaurant, tu sais. Un restaurant, là, dans la ville de Québec, là, ben, c'est pas la population de Québec, on va s'entendre, tu sais. Faut que des gens se spécialisent dans les productions. C'est la même chose avec les semenciers. On commence à voir des semenciers, on commence à voir apparaître des variétés qui sont produites en quantité suffisante pour fournir des petits producteurs. Ben là, il faudrait qu'il y ait ça aussi dans les vivaces, puis toute la quête des gens qui en produisent assez pour pouvoir fournir la restauration. Parce qu'il y a une demande. La demande est là, c'est l'entre-deux qui n'est pas là. La ressource est là, la demande est là, puis entre les deux, là, la chaîne est coupée.
Ben, un des facteurs limitants, c'est clairement la distance, disons, des tâles, la facilité d'approvisionnement, tout ça. Est-ce que tu vois un potentiel pour de l'agroforesterie puis rapprocher des grands centres ces plantes-là, puis ça devrait passer par une forme de domestication? Est-ce que tu vois ça comme un champ d'avenir, disons, pour
l'agriculture? Oui, absolument. Absolument. T'sais, une plante comme la cryptoténie, se cultive très, très bien. Il y a de la semence disponible. Il manque quelqu'un pour le faire. T'sais, regarde le travail qu'on a fait avec les champignons sauvages. Tu sais, je m'excuse, là, mais bon, toi, t'es jeune, mais quand j'avais ton âge, là, champignons sauvages puis restauration, ça ne marchait pas ensemble. Tu sais, t'avais le champignon de Paris, puis on n'avait même pas de branche, tu sais, même pas de porte-mélo. Puis regarde aujourd'hui, tout le réseau, quand l'offre est arrivée, le réseau s'est structuré. Tu sais, mais ça commence par l'offre, à quelque part. Mais écoute, il y a toujours un jeu de poule et l'œuf, là. Mais à un moment donné, au début, c'est toujours à tâtons. Ça devait être à tâtons, j'imagine. Mais maintenant, c'est bien structuré. Puis regarde, ça aussi, là, c'est une affaire de taille cachée partout, des champignons. Mais là, il y a tellement de monde qui vont accueillir qu'il y a des grands, grands distributeurs qui sont organisés. Là, à cette heure, tu peux avoir, souvent, tes œufs séchés, là, mais je veux dire, tu peux avoir à peu près n'importe quoi. J'ai un kilo de trompette de la mort, moi, là, tu sais, dans Puis je l'ai acheté. Là, je sais où j'avais une table pour aller en chercher, mais regarde, je l'ai acheté. C'était quand même pas cher, mais c'était impossible, ça. Là, 15 ans, 20 ans, là, c'était, tu rêvais en couleur. Ça s'est fait. Ça peut très, très, très bien se faire. Si quelqu'un se spécialisait dans des choses comme le clavalier, le Mitsuba ou notre Mitsuba canadien, là, si tu veux, la Cryptotemi canadensis, ou ça peut être les japonaises aussi. Beaucoup les alliums. Les alliums, c'est extraordinaire, c'est très mal exploré. Ouf, mon doux, plein de plantes. Et, écoute, mm-hmm. Dans le vivace, il y a aussi ce qui est comme pas tout à fait sauvage. Tu sais, une chose comme l'alivèche, là, bon, OK, c'est d'accord, ça ne vient pas d'ici. Mais ça reste que ça pousse sauvage de l'alivèche des montagnes. Là. Ils appellent ça l'âge des montagnes en Europe. Là, il y a quand même, parce qu'en agriculture, là, les semences appartiennent à l'humanité, puis tout ça, ça se promène, mais il y a plein de ces types de plantes-là. Qu'on peut même faire dans un setup d'agroforesterie. Là, on peut amener un peu d'humanité et un petit peu d'être humain là-dedans, une petite touche humaine dans l'agroforesterie. Là. Moi, je pense que c'est une voie qui, dans 15 ans, on va la regarder différemment. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que je recommanderais à n'importe quel jeune producteur maintenant, si tu as une terre et tu as un bout de forestier, il faut que tu fasses de quoi avec.
Puis, admettons. Je suis un jeune cueilleur ou un jeune producteur qui a dans son œuvre des PFNL. Puis je veux aller voir des cuisiniers, okay? Avec des plantes obscures, genre de la cryptoténie, là, puis des plantes que personne ne connaît. Comment tu vends ton produit pour créer l'effet « wow », là, tu sais, pour vendre la complexité des saveurs? Toi, comment tu faisais quand tu amenais des chefs dans ton jardin?
Ben, faut être. Je conseillerais à la personne d'avoir une bonne bouche elle-même et d'aimer manger. C'est drôle à dire, mais il y a même des gens qui adorent faire de l'agriculture, mais qui mangent à peu près n'importe quoi, puis cuisiner n'importe comment. Le truc avec les chefs, c'est de posséder un langage commun, honnêtement. Et ça, c'est un langage de cuisine. Puis ça s'acquiert en parlant avec des chefs, ça s'acquiert en lisant. En écoutant des émissions de TV, tu sais, les techniques. Les chefs me demandaient quelle technique que j'utiliserais. Ben, ouais, comme il y a des gens, si tu leur dis braiser, là, ils vont te regarder avec deux grands yeux de vache. C'est quoi ça, braiser? Ben, oui, mais si tu ne sais pas c'est quoi braiser, là, tu viens de perdre la chance d'avoir une technique que tu peux utiliser pour mettre en valeur ton produit. Bon. Puis il faut, dans les termes gustatifs, il faut apprendre à parler comme parle des chefs. Je m'excuse, mais quand tu parles leur langage, ça va très, 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 très bien. J'ai toujours dit, je parlais avec Mme Lisa Frula, puis ils sont en train. On est en période pré-pandémique, évidemment. Et là, ils se préparent à lancer des. Ben, écoute, je vais le dire en anglais, là, parce que je ne sais pas comment le dire en français, des outposts de l'ITHQ. Tu sais, des petits, mettons, l'ITHQ dans tel cégep, là, tu sais, qui donne à quelques cours, là, tu sais. Puis je disais à Mme Frula, écoute, Lisa, va donc faire ça dans les écoles d'agriculture, que les petits producteurs apprennent, tu sais, au moins qu'ils apprennent à connaître le langage des chefs, tu sais, pour qu'ils puissent se parler. Sinon, le gars va arriver, bon, ça, c'est bon. Mais les chefs vont goûter. Hein, toutes les écoles de cuisine, je nomme les TSQ, mais ils font tout un travail absolument remarquable pour que les jeunes s'approvisionnent de produits locaux. C'est vraiment un trip, c'est la fin d'éducation. Hein, et je peux t'assurer, moi, parce que j'en ai visité plusieurs avec Hector, les TSQ, mais plusieurs autres, OK, où j'allais faire des conférences. Ils poussent vraiment tout le monde, à tous les niveaux, pousse le produit local. Puis, l'idée de découvrir des nouvelles saveurs. Les écoles de cuisine sont extraordinaires pour ça. Et les jeunes chefs, là, c'est pas pour rien qu'ils veulent tous des produits locaux, des produits uniques. Si tu ne maîtrises pas ce langage-là, bien, va le voir le chef quand même, puis fais-lui goûter tes produits. T'sais. Lui, il va te dire, « Oh, il y a des petites notes de ci, des petits, ah, il y a des notes d'anis, il y a des notes de ci, des notes de ça. » Bien, à un moment donné, tu vas l'apprendre, puis tu vas être capable de le répéter. Finalement, écoute, c'est comme... On apprend aussi au contact des autres, hein? Mais il ne faut pas gêner des présenter parce que d'habitude, là, je vais le dire, les chefs vont. C'est assez rare qu'on me demande dans quoi tu mettrais ça. Ça arrive. Ils ont tout de suite des idées. Ils se mettent ça dans la bouche, ils dingue le cerveau, le port de tout bord, de tout côté. Puis, hey, ça serait bon là-dedans, ça serait bon là-dedans, ça serait bon là-dedans. Ils n'ont pas trop besoin d'aide, la plupart du temps.
Ben, je trouve que la difficulté, c'est justement passer du chef au consommateur lambda, tu sais, au grand consommateur. Puis surtout avec les PFNL, où on est avec des saveurs, disons, inhabituelles, tu sais, l'astringence, l'amertume, l'acidité. Bien sûr, un chef peut tout de suite se projeter dans une recette, mais si tu arrives au marché et tu fais goûter une herbacée quelconque là, qui a une amertume, ben, comment t'amènes la personne à dire, tu sais, il y a des manières d'extraire la saveur. Est-ce que tu conseillerais d'arriver avec des plats déjà transformés?
Oui, honnêtement, tu sais, dans le fond, là, si on l'analyse d'une manière très simple et crue, le chef, pour des produits inconnus, c'est ton transformateur en chef. En passant par le chef, tu passes par le produit transformé. Et c'est sûr, si je voulais vendre quelque chose, je regarderais vraiment côté transformation ou l'offrir quelque chose avec des recettes. Vraiment, là, tu sais, comme il faut, quand tu sors de l'ordinaire, il faut que tu amènes les solutions avec le problème. Tu sais? Bon, moi, du gingembre sauvage, on sait tous les deux ce que ça goûte. Personne ne sait que la gomme savon, dans le temps, c'était fait avec ça, là, tu sais, la fameuse gomme savon. Là, ils n'ont plus le droit, là, mais je veux dire, tu sais, il y a une expi. T'as-tu vu de l'amertume? N'as-tu mangé? T'es déjà assez vieux pour avoir mangé de la gomme savon, toi?
Ça me dit de quoi, mais sûrement que de mon
La
temps, c'était
Trills, la marque Trills.
de mon temps,
T-H-R-I-L-L-S.
ça devait être synthétique. Ça
Ah
devait être
oui,
la
c'était,
saveur
non, même
synthétique.
dans mon temps, moi, j'ai le double de ton âge, c'était rendu synthétique, là. Mais c'est quand même ce profil gustatif-là que c'était. Puis écoute, il y a un petit côté amer là-dedans, là, tu sais, avec le sucre, j'imagine, ça fonce en dessous. Mais c'est ça. Si on a un problème de perception, il faut qu'on arrive avec une solution. Ce qui a très, très, très bien été fait par les gens des champignons, hein, soit dit en passant, là. Tu sais? Parce qu'on n'avait vraiment pas une culture de champignons au Québec, là. Mais vraiment pas. Tu sais? Mais pas du tout. Tu sais? Pour ma mère, le champignon de Paris, c'est une exploration. Et
Ben,
ça s'est fait.
le champignon a cet avantage aussi qui doit être absolument cuisiné. T'sais, je sais qu'on met des
Ouais.
champignons de Paris crus dans les salades, là, on ne devrait pas, mais il y a cet apport-là qui fait que chaque champignon a son mode de cuisson particulier. On est
Ouais.
obligé de passer par cette étape-là. T'sais.
Ouais.
Versus la plupart des légumes, quand on les vend à l'étalage, ben, on sent tout de suite les saveurs. Les PFNL, c'est comme non, il faut que tu le passes dans deux eaux avant de le
Ah ouais, c'est
consommer.
ça.
T'sais, il y a tout cet enjeu-là, mais les trucs que tu donnes sont excellents.
Moi, je pense que toute la question, il y a quelque chose qui se fait passer, là, qui serait peut-être une étape vers les PFNL, ça serait toute la question des fines herbes vivaces. Parce qu'il y a vraiment un univers à découvrir là-dedans, qui est très souvent un univers sauvage, hein. Il y a plein de trucs, là. Tu sais, je veux dire, de l'angélique, c'est de l'angélique, là, ça pousse sauvage. De la livèche, c'est pareil. Le cerfeuil musqué, c'est pareil. Des alliums, c'est. Tu sais, la ciboulette, c'est sauvage, ça, là, tu sais. Ils ont beau faire des variétés un petit peu, quelques petites différences minimes, mais ça reste une plante sauvage, là. Il y en a plein, il y en a plein, 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 mais je ne les voyais jamais. Écoute, j'étais le gars qui achetait ces produits-là chez Hector, là, et j'en voyais pas. J'en voyais pas. T'sais.
Donc pour toi, vraiment le créneau des épices. Des herbes aromatiques, c'est vraiment un
Oui.
créneau d'avenir. Puis comme tu le dis, c'est souvent des plantes sauvages. Puis même nos plantes aromatiques méditerranéennes, elles sont
Oui,
souvent des
oui.
plantes sauvages
Ah
autour de la
oui. Ah oui,
Méditerranée.
j'en ai cueilli du thym, moi, en Provence, tu sais, puis de la sarriette, ces affaires-là, là. Tu sais, on n'est pas bien, bien loin de. Tu sais, on n'est jamais loin du sauvage. Tu sais, la fameuse caméline, l'huile de caméline. La caméline, c'est sauvage. Il y a quelques variétés qui ont été créées. comme là, Signé Caméline a travaillé avec des variétés, puis on fait des sélections variétales, mais la plupart des autres au Canada, ils sont carrément à la graine sauvage. Tu sais, ça goûte la moutarde, c'est très moutardé comme goût. Là. Mais c'est une plante rustique. Tu sais, plus c'est sauvage, plus c'est rustique. C'est extrêmement rustique. Tu sais, on a des avantages à aller pas loin du sauvage ou aller rechercher le sauvage. Des fois, leur mettre, regarde, avec les tomates, on fait beaucoup ça, là, les pommes de terre. On fait beaucoup aller chercher le sauvage, puis des fois mêler la génétique avec du cultivé pour redonner de la vigueur, tout ça, parce que dans le sauvage, il y a une résistance extraordinaire. Tu sais. Il y a toujours des individus qui survivent à quelque chose, tu sais, quand il y a une maladie.
Puis, admettons, j'ai l'hypothèse que la résistance et le goût vont ensemble.
C'est souvent vrai, puis c'est pas toujours vrai. Okay. Ça, c'est un concept. Tu sais, il y a une variété comme la tomate Mémé de Beauce qui est extraordinaire au goût. Bon, les gens l'aiment bien parce que c'est Mémé de Beauce, le nom est sympathique, c'est québécois, c'est historique ici, mais tu fais boue, puis elle va craquer, tu sais, puis elle n'est pas très, très productive. Elle est cultivée par amour, puis c'est bien correct. Tu sais, mais je veux dire, tu ne parles pas de résistance, là, mais tu parles de goût. C'est vraiment deux choses. Mais c'est parce que c'est deux. C'est pas à la même place dans les gènes, les trucs. Mais il y en a qui ont les deux. Simplement, ouais. Tu prends les... Il y a des variétés extraordinairement savoureuses qui sont très, très utilisées en croisement, comme la Prudence Purple, mettons, qui est une variété de tomates qui va résister au froid, au mildiou, beaucoup plus. Un paquet d'affaires de même. Qui va souvent battre la tomate étalon là, dans le milieu de la tomate, là, c'est la Brandywine. Okay? Mais la Prudence Purple, c'est comme une Brandywine, mais productive. Puis plus résistante aux maladies, résistante au froid.
Mais attends,
souvent, on va battre Brandywine. Là, tu as les deux, mais c'est deux phénomènes génétiques qui ne sont pas reliés. Là.
Concomitance
dans la plante.
Je vais essayer de soutenir mon hypothèse avec un exemple chez les PFNL. Okay?
Okay.
Les plantes de printanières sont souvent plus sucrées, entre guillemets. Okay?
Ouais,
c'est parce qu'il y a moins d'herbivorie due aux insectes, donc son profil phytochimique, c'est-à-dire la chimie qu'il constitue, est moins présent. T'sais. Mais ensuite, quand il grandit, il y a tout un profil de saveurs qui, oui, sont plus qui sont intéressantes en cuisine et en gastronomie.
Plus
amères, etc., mais qui donnent un spectre de saveurs plus grand. C'est pour ça que les plantes sauvages ont peut-être un intérêt gastronomique ou une palette de saveurs plus grande parce qu'elles doivent combattre l'herbivorie.
Oui, mais en fait, c'est que ce que les gens savent, ben, la plupart des gens le savent, j'imagine, là, au niveau des gens qui vont écouter ton podcast, mais c'est les huiles essentielles, c'est une défense immunitaire de la plante. Alors, il y en a moins d'huiles essentielles au début quand la plante est jeune. C'est normal, elle est fraîche. Écoute, ça vient de sortir de terre, ça n'a pas eu le temps de construire sa fibre non plus. Là. Puis là, la job, c'est juste de grimper par en haut. C'est sûr que c'est très bon. Là. Puis, mais moi, j'aime bien. Il y a beaucoup de ces plantes-là qu'on dit qu'on ne mange que jeune. Garde l'ortie. Je m'excuse, mais de l'ortie, de la vieille ortie du mois d'août, là, à vapeur. Là. Est-ce que celle du printemps est vraiment meilleure? Ça se débat. Ça peut se débattre. Mais l'ortie du Canada, on m'en demandait souvent de l'ortie. L'ortie du Canada, là, si
la, on... La portée, oui.
Oui, la portée, la Portea canadensis. Pourquoi on n'en voit pas plus? Il y en a, là. Il y en a, là. Mais en fait, moi, je vais t'avouer, franchement, c'est des gens, des spécialistes en herboristerie qui récemment m'ont appris que la Portea existait. Moi, dans ma tête, je disais de l'ortie, puis j'en ai vu. Puis là, après ça, j'ai regardé ça, la photo, je dis, ben oui, c'est cette ortie-là que moi, je voyais. J'ai un exemple d'une immense salle de ça à Oka. C'était pas la dioïque, là, tu sais. Mais j'avais juste jamais pensé regarder, mais on a une... Puis il paraîtrait qu'elle a des propriétés au niveau de la santé qui sont jusqu'à 10 000 fois plus puissantes que la 10 000 en herboristerie, qu'on m'a dit, regarde. c'est pas docteur Michel qui dit ça, là, OK? Mais elle est extrêmement puissante, la Portea canadensis, tu sais. Ça, c'est bon, là, de l'ortie, là. Les chefs m'en
Succulent.
demandent, là. Hein? On n'a
Succulent.
pas. Hein?
Puis souvent, la portée se fait sous canopée forestière, fait qu'elle garde justement quelque chose de plus tendre, puis
Ouais.
plus.
Ouais, c'est un truc que je donne souvent à des jeunes producteurs. Comme il y avait quelqu'un qui voulait produire du plantain pour une chèvre de Québec. Ben, regarde, il dit, tu peux t'en semer, là, la graine est disponible, là, mais va t'en mettre à l'ombre un peu. Les feuilles vont être plus grosses, puis tes feuilles vont être plus tendres. Là. Celle qui va se faire taper par le soleil, là, mettons que la saison va être plus courte.
Michel, avec toute ton expérience, tout ton background, puis ta vue à vol d'oiseau là, du marché alimentaire québécois, admettons, j'ai 20 ans, puis je veux partir, j'ai accès à une terre, puis je veux partir quelque chose d'alternatif autour des vivaces, autour des PFNL.
Ouais.
Qu'est-ce que tu proposerais comme, admettons, sur un 10 ans? T'sais? Parce qu'on sait qu'il y a le temps d'établissement, il y a tous ces enjeux-là avec les vivaces un peu de plus long terme. Ça serait quoi le plan de match là, selon
Ben,
Michel?
j'aurais. Là, tu m'arrives avec ça à brûle pour point, mon snow. Tu ne me l'avais pas dit, celle-là. Ben, écoute, honnêtement, là, je travaillerais deux approches. Une approche qui procure du revenu immédiat parce que ça prend du revenu pour faire des dépenses. Le problème des vivaces, c'est que ça prend quelques années pour s'établir, minimum. Là, on va dire des petites plantes, OK? Entendons-nous, pas un noyer. Ben, ça prend des revenus entre-temps. Je suggérerais une approche là, de revenu, peut-être un autre, parce qu'un autre, tu peux faire ou deux, écoute, ça dépend des personnes, là, mais tu peux tirer de très bons revenus là, si tu fais ça en bio-intensif de cette surface-là. Je m'en servirais pour financer. Ce qui va devenir ma prochaine source de revenus, c'est que le vivace, l'avantage, c'est qu'après, il coûte vraiment plus cher. Tu sais, il y a juste le problème du temps. Alors, j'aurais une approche, là, ça dépend des régions. Il y a des trucs qui. Puis des besoins aussi. J'essaierai de viser une clientèle de restaurateurs parce que d'habitude, si tu veux faire de la nouveauté, c'est le fun. C'est une clientèle régulière. Je suis pas sûr que j'irai du côté de l'agriculture supportée, tu sais, fermier de famille, hein, parce que c'est. J'aimerais mieux. Moi, en tout cas, j'aimerais mieux parce que c'est lourd, c'est de la gestion. Puis là, tu es en train d'établir d'autres choses, une ferme de permaculture pendant que tu fais ça. Il y a 24 heures dans une journée. Je m'organiserais pour avoir plutôt des stands. Si tu étais dans un marché, c'est un marché public ou des choses comme ça, parce que c'est quand même l'avantage que tu passes le stock que tu as. Si tu n'en restes plus, bien, tu fermes le stand et tu t'en vas. Tandis que quand tu fais des journées portes ouvertes, là, pour tes gens, là, qui viennent pas, t'es barré là pour la journée. Puis c'est du management puis de la gestion. Ça a des avantages puis des inconvénients. Mais ces inconvénients-là, je les vois mal. Se mesurer au fait de développer aussi la permaculture en même temps. Parce que là, c'est comme porter trois chapeaux. Un chapeau de producteur annuel, un chapeau de gestionnaire communautaire quasiment, puis un chapeau de quelqu'un qui est en train de développer, puis ça, c'est du travail. Je ferais ça. Je ferais vraiment quelque chose avec des annuelles payantes, des tomates, des laitues. Tu es obligé de faire de la carotte parce que si tu n'as pas de carotte, le monde va bouder. Des haricots, c'est payant, les haricots. Cocombe, des choses comme ça, qui se vendent bien, qui sont populaires. Tu sais, la tomate, le cocombe, le haricot, c'est les laitues, c'est dans les quatre affaires les plus populaires. Là. OK? Bon, les carottes, tu es obligé. Tu es vraiment obligé, sinon tu vas te faire arracher la tête. Mais c'est pas ça qui est le plus payant, là, mais.
Puis le plus
T'as
facile.
pas le choix. Puis peut-être de la pomme de terre de petit calibre. OK, pour les chefs, ça, écoute, il y a de l'argent à faire dans la patate, là. La patate grelot, c'est payant. Puis après ça, c'est ça. Là, je choisirais vraiment là, des choses pour alorer de la forêt, puis des choses vivaces en champ. Les deux. Les deux. Il y a des choses qui ont besoin d'ombre. Il y a des choses qui ont besoin d'ombre partielle, puis il y a des choses qui vivent très, très bien en champ. C'est de l'ivraie en champ, c'est pas un problème. Même du cerfeuil musqué, on dit souvent à l'ombre, tout ce que ça a besoin, c'est d'une terre fraîche, c'est une terre argileuse, c'est une terre sableuse au soleil, oublie ça. Mais c'est une terre bien lourde, là, tu sais, avec pleine d'eau qui est fraîche comme l'argile, ça va très, très bien survivre. Fait que c'est ça que je ferais, vraiment. Là, mm-hmm. Je cultiverais mon côté forestier, mais je cultiverais aussi le côté lisière de forêt, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lisière de forêt pour les aliacées, pour un paquet de plantes, là, c'est bien, bien le fun.
Il y a plein de choses. Je rajouterais aussi le créneau de pépinière. Je pense qu'il y a quelque chose là d'intéressant, probablement. Puis oui, celui d'éducation aussi. Mais on multiplie les chapeaux, comme tu le disais.
Oui, c'est si, ça. C'est qu'à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, puis c'est épuisant. Toi et moi, là, quand tu es producteur, là, ça, je peux en parler. Quand tu es rendu au mois d'octobre, là, tu regardes tes légumes, puis t'es plus capable de les voir. Ça m'est arrivé, écoute, à un moment donné. T'sais, j'avais tout le temps 200 sortes de melons par année. Puis j'avais mon balcon mais rempli de sacs d'épicerie de melons. Puis il fallait que je goûte tout. La bouche qui me brûlait, là, je n'étais plus capable de voir des melons. Là, plus capable. Quand je sélectionne des tomates, c'est la même affaire. Là, j'invite les jeunes vraiment à ce qu'il y ait un volet permaculture, puis si possible, un volet agroforesterie dans leur projet. Je pense que c'est vraiment l'avenir. Ça s'en va vers ça, de toute façon. Mm-hmm. Même les goûts, les chefs en veulent, là, de plus en plus des produits forestiers, puis toute la quête. Mm-hmm. Puis il y a plein d'affaires là-dedans qui sont déjà là. Tu sais, les bourgeons de sapin, c'est déjà là. Mm-hmm. Après, de la transformation, tu sais, les boutons de marguerite. Le gars qui paye pour acheter des marguerites, il faudrait peut-être expliquer deux, trois petits trucs. il y en a beaucoup là, à bien des endroits là, puis, où il n'y a pas de problème de pesticides. Là, t'sais.
Peut-être pour finir, Michel, c'est quoi ton meilleur scénario pour les 10 prochaines années dans le monde agroalimentaire québécois? T'sais, avec les tendances actuelles qu'on voit avec la COVID, avec les promesses du MAPAC, avec le nouvel engouement, les jardiniers maraîchers. Comment tu vois ça aller? Puis comment tu espères, dans le meilleur des scénarios, que tout ça s'en aille pour notre paysage agroforestier au Québec? Ouais.
Agroforestier, je ne peux vraiment pas te le dire. J'ai pas assez de... d'insight dans le milieu pour ça.
Agroforestier au sens de agroalimentaire. Là. Je veux juste dire que le territoire québécois est un territoire agroforestier, puis toute la mosaïque de cultures possibles qui se ferait sur notre territoire.
Ben, moi, je vois de plus en plus le phénomène d'achat local, là, et je le vois comme super établi. Le phénomène de production locale aussi, et ça, c'est mondial. Il n'y a plus de semences nulle part à peu près. Là. Il reste quelques variétés de semences. Mais il y avait plein de semenciers qui ne veulent même plus, même les gros. Là. On ne rouvre pas avant la fin de mars, on n'est plus capable. Il y a une espèce de besoin d'autonomie qui s'installe. Avec ce besoin d'autonomie-là, va s'installer une culture de la diversité. Okay, une culture de la différence, une culture du légume différent, des fines herbes différentes, tout ça, c'est en train de s'établir. Puis ça, c'est extrêmement positif pour même le côté carrément agroforestier, là, et puis pour la permaculture aussi, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont découvrir, parce qu'il y en a beaucoup de ces vivaces-là, là, qui sont extraordinairement savoureuses, là, OK? C'est tout en train de faire son chemin de manière solide. Moi, je pense qu'une initiative comme celle d'Hector Larrivé, de continuer à promouvoir des producteurs locaux, c'est la clé dans la distribution. Ben, moi, en restauration, je pense que les distributeurs du milieu de la restauration ont, parce que c'est les chefs qui sont les leaders, là, soyons francs, là, des opinions sur les goûts, ont un travail vraiment, vraiment important. Tout le monde a un travail, là. Écoute, j'en connais plusieurs, c'est des amis, là, pas juste des compétiteurs, là, on se connaît là, entre nous. Là. Il y a un boulot sérieux à faire pour encourager le petit producteur local au niveau de la distribution. Il y a un boulot à faire au niveau des épiceries pour aller vraiment, vraiment plus sur le petit. Puis ils sont capables de le faire. Là. C'est une question de volonté. Là. Ils ont le droit, là. Les épiceries ont le droit à 10, 15, ça dépend des chaînes, mais on va dire 15 % de, ils appellent ça du « backdoor ». OK? Ça veut dire que tu peux acheter directement du producteur. C'est là, là. C'est là, c'est une question de volonté. Peut-être de s'asseoir, faire des tables de concertation, de dire, écoutez, là, on peut tous s'arranger, les producteurs, les gars d'agroforesterie ou même les petits producteurs locaux, faire une table de concertation avec les épiciers locaux. Parce que toutes les possibilités sont là, là déjà. Puis si les jeunes producteurs viennent, puis sont prêts, parce qu'il faut être prêt à faire ça, parce que l'épicier, lui, ne peut pas juste payer pour aller mettre ça aux poubelles, tu sais, mais à venir faire connaître leurs produits. Il y a un beau travail de communication à faire. Aller en commerce, aller en épicier, là, parce que moi, je l'ai déjà fait, ça, je peux te le dire, là, OK? Introduire un produit directement à l'épicier, aller puis dire au propriétaire, ben, gars, je vais être là, là, pour l'expliquer puis le vendre, là. Ben, dans ce temps-là, ça sort, le produit, là, tu sais. Ben, il va falloir qu'il y ait des initiatives comme ça qui soient faites beaucoup plus. Mais c'est de la concertation. Si on a cette concertation-là, l'avenir va être vraiment extraordinaire pour les jeunes producteurs. Mais il faut qu'ils apprennent à s'organiser pour faire ça.
Michel Lachaume, merci de ton parcours, merci de ton engagement, puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ben, au plaisir. À la prochaine, Sam.
Bye-bye. Au revoir.